RCF.
Jeudi soir, 18h10, on est fidèle au poste sur RCF France-Ardenne, RCF Cœur de Champagne, RCF Champagne-Ardenne. Pour ceux qui nous écoutent en DAB+, on est très ravis de vous retrouver avec toute l'équipe, également nos stagiaires à la rédaction qui sont là, qui ont pris place en studio. On commence par les hommes. Aujourd'hui, Kylian Jeannot est avec nous. Bonjour Kylian.
Bonjour Alexis.
Manon est également à mes côtés. Bonsoir Manon.
Bonsoir Alexis.
On va passer une bonne soirée tous ensemble avec Jean-Pierre Benoît qui sera là lui aussi pour interviewer quelques personnes, notamment un maire qui nous parle ce soir. Philippe Claude, maire d'Audrecy dans les Ardennes, sera avec nous. Il évoquera aussi, Jean-Pierre Benoît, un débat sur la laïcité qui est organisé à l'Institut catholique de Paris, campus de Reims, demain à 18h, organisé par la ville de Reims et l'ICP. Philippe Vattier, adjoint au maire, et Olivier Cuissard, directeur de l'ICP campus de Reims, seront nos invités en studio en deuxième partie d'émission et tout fonctionnera à merveille, il n'y a pas de problème. L'inflation, la suite, c'est la question d'économie que l'on va poser à Gérard Marion. Henri, c'est vrai que la semaine dernière, il y a certains sujets qui étaient restés un petit peu sensibles, on allait dire. Nos auditeurs nous ont posé des questions cette semaine. Gérard-Marie Henri y répond avec une spontanéité, une franchise implacable. Nous aurons également le témoignage de Manon, parce que Manon, c'est son avant-dernier jour aujourd'hui à la rédaction. Donc, elle nous parlera de comment elle a vécu son stage. Vous nous avez prévu quelques questions et des réponses à nous apporter, Manon, c'est ça?
Exactement.
Très bien. Eh bien, on a hâte de vous retrouver. Ça sera en deuxième partie d'émission. Tout comme Jacques Fromm, qui est conseiller municipal délégué au commerce et aux grands événements pour la ville d'Épernay. Il nous présentera les habits de lumière. Le départ, c'est demain, c'est du 8 au 10 décembre. C'est la 23e édition. Ainsi se referme ce sommaire, mais surtout, ainsi débute le magazine régional. Et après le sommaire, avant même de rentrer dans le vif du sujet et de retrouver Gérard-Marie Henri, une information, le déplacement de monsieur Bruno Bonnel, secrétaire général pour l'investissement, qui sera dans la Marne demain, hein, puisqu'il viendra visiter de nombreuses entreprises innovantes dès 9h du matin. Il arrivera à Reims avec une visite dynamique de l'entreprise lauréate France 2030 du volet spatial. On aura également d'autres visites qui vont s'enchaîner tout au long de la journée. On aura la visite dynamique toujours des studios, des décors, présentation des projets à venir pour le développement des studios Lauréat France 2030 à la Grande Fabrique de l'Image. Parmi d'autres choses, il ira faire un tour du côté également de Pomacle où il visitera le CEB, le Centre Européen de la Biotechnologie et de Bioéconomie. Voilà, tout cela, c'est en lien avec l'économie et lorsque l'on parle d'économie le jeudi, évidemment, on pense à Gérard-Marie Henri. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous le savez, dans cette émission, Gérard-Marie Henri, il y a un fil conducteur, il y a des gens qui réagissent, qui interagissent avec vos questions et les questions que l'on vous pose. Et la semaine dernière, on a parlé de l'inflation et vous aviez dit que la Banque Centrale Européenne augmentait ses taux pour lutter contre l'inflation. Ça a laissé perplexe certains de nos auditeurs et puis certaines personnes de notre équipe salariée aussi qui se sont dit comment c'est possible que la Banque Centrale Européenne augmente ses taux pour lutter contre l'inflation. Ça méritait une explication complémentaire, un petit peu plus claire peut-être. Vulgarisez-nous tout ça, Gérard-Marie Henri, expliquez-nous mieux les choses.
Donc on essaye de rappeler que l'inflation, c'est la hausse du niveau général des prix. Ça veut dire qu'il y a des prix qui montent et sur le budget des consommateurs, ça va se ressentir. Ils vont avoir une perte de pouvoir d'achat parce qu'avec le même revenu, ils ne peuvent pas acheter autant de trucs qu'avant. Donc c'est une situation qui n'est pas bonne. Hein. C'est la monnaie qui perd de sa valeur. Et le gardien de la monnaie dans tous les pays, c'est la banque centrale. C'est elle qui fait en sorte que les gens n'aient pas peur d'utiliser les billets marqués en euros, que le charcutier ou le boulanger accepte ces billets libellés en euros. Ce qui n'est pas le cas dans certains pays. On pense à l'Argentine en ce moment, où quand les gens vont dans un magasin, ben on leur dit qu'il faut payer en dollars. La monnaie locale, on n'en veut pas. Donc la banque centrale, il faut qu'elle fasse en sorte que l'inflation ne grimpe pas. Qu'est-ce qu'elle a à sa disposition comme arme? Ben elle a à sa disposition ce qu'on appelle le refinancement des banques. Moi, quand je vais voir une banque, la banque me prête de l'argent, mais en fait, l'argent qu'elle me prête, c'est pas forcément de l'argent qui était dans son capital. Elle va toutes les semaines demander à la Banque Centrale Européenne, petite rallonge, un prêt, que la Banque Centrale Européenne lui accorde en disant bah, « tu me rembourseras la semaine prochaine, ou dans un mois, ou dans deux mois, il y a un certain nombre de modalités différentes ». Mais donc la banque a récupéré de l'argent qui lui a été prêté par la Banque Centrale.
Est-ce que la Banque Centrale Européenne, c'est un puits sans fond, Gérard-Marie Henri? À un moment donné, elle veut dire stop
elle
aussi.
Elle peut créer de la monnaie comme elle veut. Il y a qu'elle qui est capable de créer de la monnaie. Quand elle décide d'acheter des obligations sur le marché obligataire, là on change un petit peu de direction, mais elle crée de la monnaie, elle crée des euros pour acheter des actifs financiers. Et puis après, quand elle les revendra, vendra, bah évidemment, elle repompera les liquidités qu'elle a mis dans le circuit. Hein. Vous voyez, il y a une sorte de masse monétaire qui tourne, que se prêtent ou se passent les agents économiques, qui me permet d'avoir sur mon compte courant de l'argent qui me permet de dépenser. Et toute cette masse monétaire, bah, la banque centrale la surveille. Et elle se dit que quand il y a un peu d'inflation, comme en ce moment, quand les prix augmentent de 5%, bah, c'est que la masse monétaire augmente trop vite. C'est que les gens ont à leur disposition un peu trop d'argent et donc ils achètent et ça fait monter les prix parce qu'il y a une demande qui est plus importante que l'offre et craque, les prix montent. Donc il faut calmer cette augmentation de la masse monétaire. Comment y arriver ? Bah, la banque centrale va revenir avec ses banques auxquelles elle prête. Elle va leur dire, je veux bien continuer à te prêter, mais je vais te prêter un peu plus cher. Au lieu de te prêter à 0%, tu me rends ce que je t'ai prêté, maintenant je vais te faire payer 5% d'intérêt. Quand tu me rendras l'argent, bah, il faudra que tu remettes 5% ou plus pour me rembourser. Et évidemment, les banques, donc, bah, faut qu'elles gagnent leur vie. L'argent qu'elles ont emprunté à la BCE, c'est de l'argent qu'elles prêtent aux acteurs économiques, aux ménages, aux entreprises. Et elles vont dire aux ménages, aux entreprises, bah, écoutez, maintenant, les taux auxquels je vous prêtais, c'est plus 1%, c'est plus 2, c'est plus 3, ça va être 4, ça va être 5. Et donc, les agents économiques, quand ils voient les taux d'intérêt augmenter, ceux qui étaient prêts à emprunter, bah, ils vont dire, je vais peut-être attendre un petit peu, hein. Peut-être attendre que ça rebaisse, parce que pour l'instant, bah, ça fait cher, je vais avoir des intérêts importants à payer, etc. Et donc, ils font pas la décision d'achat qu'ils avaient prévu de faire. Ils vont pas changer de voiture, ils vont pas acheter un nouvel appartement, ils vont pas se remeubler leur cuisine. Et donc ça, ça va faire qu'il y aura moins d'argent en circulation dans l'économie. Et donc, l'économie va se refroidir. Et donc, les prix vont normalement moins augmenter. Sauf s'il y a, bien sûr, des événements extérieurs, géopolitiques, le pétrole, etc. Là, c'est pas sous la coupe de la Banque Centrale Européenne, mais tout le reste, elle peut intervenir. C'est ce qu'elle a fait. On était à des taux d'inflation de 8, on est descendu à 7, on est à 6, on est à 5. On est maintenant au niveau de l'Europe à 3. En France, on est un peu au-dessus, mais on a bien la bonne direction, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, en augmentant ses taux d'intérêt, a renchéri le crédit, ce qui a fait que la demande de crédit immobilier, de crédit à la consommation a fortement chuté, ce qui est même un peu inquiétant. Et comme cette demande de crédit a fortement chuté, bah les gens ont moins d'argent à dépenser et donc l'économie se calme et les prix augmentent moins.
Eh bien Gérard-Marie Henry, on vous avait demandé quelques explications, vous avez été très complet, presque le temps d'une chronique, mais on avait vu aussi la semaine dernière que inflation et pouvoir d'achat étaient liés, notamment avec la hausse au niveau général hein, des prix. On avait parlé des prix, j'allais dire, de l'alimentaire, etc., de l'énergie, mais on a aussi une notion sur la hausse des services, et c'est là qu'il y a une grosse différence par rapport au coût de l'alimentaire ou de l'énergie, où les coûts sont variables et les prix peuvent à la fois monter, baisser, etc. Le spectre peut bouger. Contrairement à cela, lorsqu'on parle des prix des services, eh bien, eux, une fois qu'ils ont augmenté, ils ne font qu'augmenter finalement. La courbe ne s'inverse jamais.
J'ai sous les yeux ce que fait l'INSEE. Tous les mois, elle regarde les prix des services. Elle dit en un an, les services ont augmenté de 3,2%. C'est assez raisonnable. Mais, comme tu l'as dit, ça ne va pas redescendre. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme service ? Il y a le prix des transports ferroviaires, les transports aériens, les transports routiers, la protection sociale, les services d'hébergement, c'est-à-dire les hôtels, les services récréatifs et culturels, les abonnements à Deezer ou autre chose, les assurances, les entretiens et réparations des logements, les prix des services de communication, l'abonnement sur Internet, etc. Et puis les loyers, l'eau, l'enlèvement des ordures ménagères, les services de santé. Vous voyez que ça couvre énormément de choses qu'on ne voit pas vraiment changer parce que d'une part, c'est prélevé directement. On a généralement un abonnement. C'est pas des prix qui se modifient tous les jours. On renouvelle son abonnement et ben, on se souvient pas exactement combien c'était l'année dernière, c'était peut-être 55 euros, cette année ça va être 60, mais ça, on le voit pas. Et donc ça, c'est une inflation qui est fort embarrassante et que surveillent bien sûr les banques centrales parce que on ne revient pas en arrière. Une fois que le tarif de la consultation de l'avocat a augmenté, bah, généralement il va pas vous dire la fois d'après, tiens je vous fais une réduc de 20%. Et donc il faut que ces prix des services restent sages. Or ce sont souvent des prix qui sont liés au coût du travail. C'est-à-dire c'est souvent des personnes qui font directement les services, hein. Je pense à la réparation, à l'enlèvement des ordures, enfin tous ces trucs-là. Et donc là, si le coût du travail augmente, ce qui est normal pour essayer de récupérer les pertes de pouvoir d'achat, mais les entreprises qui travaillent dans le nettoyage, dans la sécurité, etc., vont dire, bah, moi je suis obligé d'augmenter mes tarifs parce que mes salariés, bah, on a augmenté fortement le SMIC, et donc ça me coûte nettement plus cher, et maintenant donc je facture un peu plus. Donc on a un problème dans beaucoup de secteurs de services, de la liaison entre direct entre coût du travail et prix qui est fait aux clients.
Gérard-Marie Henry, pour conclure cette chronique avec vous, si les services augmentent et reste à taux, j'allais dire assez haut, que les prix ne font qu'augmenter, ça veut dire que le consommateur, quoi qu'il arrive, il perd en pouvoir d'achat, son pouvoir d'achat baisse ?
Absolument, et c'est pour ça qu'ils réclament des augmentations de salaire. Alors ce qu'on fait pour les salariés les plus modestes, on a une indexation automatique du SMIC sur l'inflation. Mais après, si vous êtes largement au-dessus du SMIC, bah, votre salaire ne va pas forcément tout de suite suivre. Et donc on a effectivement, pour certaines catégories de Français, ceux qui sont au milieu, on va dire, pas ceux qui sont en bas de l'échelle qui sont protégés, pas ceux qui sont très hauts qui de toute façon sont capables d'avoir des augmentations de revenus parce qu'ils ont des actions. Mais par contre, tous ceux qui sont au milieu, hein, le petit prof, etc., bah, là, ils ont effectivement en ce moment une perte de pouvoir d'achat.
Eh bien, merci Gérard-Marie Henry de nous avoir éclairé sur l'inflation, le pouvoir d'achat, l'augmentation des prix, des services, etc. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine avec de nouvelles actualités. À très bientôt.
À la semaine prochaine.
À Reims, Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et on prend la direction d'Audrecy, dans les Ardennes, désormais rencontrer Philippe Claude, le maire qui nous parle, le maire qui vous parle ce soir, c'est au micro de Jean-Pierre.
Philippe Claude, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est l'occasion pour nous de découvrir la commune d'Audrecy, dans le département des Ardennes. Est-ce que vous pouvez nous présenter de façon très générale la commune, la situation géographique, combien d'habitants, et puis si vous êtes maire depuis un moment ou pas?
Donc nous, la situation donc de la commune d'Audrecy se trouve donc à 7 km de Charleville, est située donc à l'ombre, pas très loin de l'autoroute à 34. Et le nombre d'habitants, nous sommes grosso modo 350 habitants. Et je suis maire donc depuis 2014.
Alors quelles ont été vos motivations? Vous avez toujours été attiré, on vous a demandé, vous connaissez beaucoup de monde, donc on a dit bon, voilà, ça serait un bon maire pour Audrecy. C'était peut-être, comme on dit aujourd'hui, dans votre ADN.
Bah, c'était, je pense, un peu dans mon ADN. J'ai toujours fait partie d'associations. C'est quand même mon cinquième mandat en tant que conseiller. Et donc le deuxième en tant que maire. Et ça s'est passé, je veux pas dire qu'on m'a poussé, parce que de toute manière, j'étais prédisposé à être maire, mais c'est suite à, disons, à des soucis qu'il y avait avec l'autre maire, et puis...
Vous avez pris le flambeau.
Je me suis présenté contre lui, pour la petite anecdote. L'élection d'avant, il avait fait tout pour que je ne passe pas en tant que conseiller, je suis passé quand même. Et puis, le coup d'après, c'est moi qui suis passé, mais là, je suis passé pour être maire.
Alors, comment peut-on, si on vous demande comme ça, Audrecy, les habitants d'aujourd'hui, vous dites que c'est proche de Charleville-Mézières, est-ce qu'il y a des gens qui font construire? Quel est le type d'habitant? Avec le Covid, il y a des gens qui aiment mieux être à la campagne. Est-ce que vous avez ressenti tout ça? Quels sont les habitants d'Audrecy? Quel est le profil?
Disons qu'avant, c'était une cité où il y avait pas mal d'agriculteurs. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Et c'est plus maintenant une cité dortoir. C'est les gens qui travaillent sur Charleville, qui sont tout proches. Et des gens qui sont, il faut le dire, hein, aisés au niveau finance, parce que les prix grimpent fortement au niveau des maisons quoi, sur Audrecy.
Sur Audrecy, le prix de l'immobilier a tendance à grimper. Alors c'est vrai d'ailleurs qu'il y a beaucoup de maires qui aujourd'hui, le maire étant sollicité, se disent « Oh bon, on va pas se lancer ». C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de boulot quand même quand on est maire d'une commune.
Quelque peu, oui. Et puis ce qu'il y a, c'est, disons, l'État et puis tous les préfectures et tous les services qui devraient nous aider ne font rien pour nous aider, entre guillemets.
C'est un peu compliqué alors pour vous. C'est vrai que avec l'administration.
C'est compliqué avec l'administration parce qu'ils se croient avec des entités qui ont 2005 ou 3000 habitants et qui ne sont pas tout à fait identiques à nos communes.
Bien sûr, avec 300 habitants, vous n'avez pas le personnel, vous n'avez pas tout ça. Mais alors, est-ce que vous êtes quand même le patron? Est-ce que le maire, quand même, je sais que dans une commune, le maire, il est connu, on s'adresse à lui. Alors, c'est vrai qu'avec l'intercommunalité, il y a beaucoup de choses maintenant qui dépendent de l'agglo.
Oui, il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'agglo. Bon, nous, on a... Par exemple, le service des eaux, c'est plus nous. On a quand même pas mal de choses qui ne sont plus à nous. Mais bon, on n'est plus le patron comme à une certaine époque.
Mais pourtant, je vous interromps, Philippe Claude, pourtant on dit quand même que parmi toutes les fonctions, il y a des députés, il y a des sénateurs, des conseillers départementaux, le maire, c'est celui qui est le plus reconnu. Le maire, c'est quelque chose qui compte pour les habitants en général.
Oui, c'est sûr, c'est une personne qui compte parce que c'est la personne qu'on connaît le plus. Et puis c'est la personne auprès de qui on va demander les renseignements et auprès de qui on demande tout et on va dire n'importe quoi.
Ça peut arriver. Alors justement, j'ai envie de me demander qu'est-ce qu'on vous demande. Alors c'est vrai qu'on vous demande sans doute des renseignements personnels, des questions. Alors il y a des gens qui vous encouragent, puis il y a des gens qui rouspètent tout le temps. Ça arrive partout. Alors comment vous arrivez à vous arranger? Il faut quand même que vous soyez un peu diplomate d'une certaine façon.
Bah déjà, il faut savoir réagir non pas disons dans la rapidité. Moi, ça c'est l'expérience qui parle. Au début, j'aurais été un peu soupaulé puis répondre de but en blanc. Mais maintenant, je prends du recul, je laisse un peu de temps et je réponds, calmement et sereinement.
Tranquillement.
Et tranquillement. Et surtout, je prends du recul. C'est-à-dire que si la personne m'appelle énervé, bon, ben forcément, je ne vais pas la rappeler dans l'instant.
Ah ben oui, il faut que ça retombe un petit peu, quoi.
Disons que la tension retombe et après seulement, j'interviens.
Est-ce qu'il y a des projets dans les prochains mois, dans les prochaines années pour Audrecy? Est-ce que vous avez quelques projets en cours?
Ben, on a des projets. Par contre, moi, ce que je voulais parler, c'est surtout d'un projet qui était mené uniquement, disons, par la commune et avec l'aide quand même un peu de la région. On a refait complètement notre église. C'est un sujet du jour puisque il y a pas mal d'églises qui sont quelquefois vendues ou quelquefois détruites. Et nous, ben, on a eu la chance d'avoir un adjoint qui est donc du métier et qui va être très motivé et puis qui avait dans ce but de refaire l'église. Et donc, on a refait ça uniquement avec les moyens de la mairie et puis je vous dis avec une participation quand même de la
région. Ça, c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'églises qui ont tendance, c'est vrai que ça coûte cher à entretenir. Et si on ne tombe pas sur des gens motivés qui s'y connaissent et des passionnés, ça peut tomber vraiment en décrépitude.
Hein. Ah ben, nous, si vous avez eu mieux, c'était la charpente qui était en train d'appuyer sur les murs et puis qui faisait que était en train de s'écrouler. Quoi.
Une question un peu personnelle parce que le temps passe très vite. Vie familiale, vie professionnelle, quand on est maire, c'est pas facile de conjuguer quand même les deux. Il y en a qui disent « Oh là là, les journées longues 24 heures ».
Ben, c'est très compliqué. Et bon, là, j'ai la chance d'avoir pu partir en cessation d'activité du fait d'un plan social parce que je travaillais chez PSA. Mais sinon, avant, quand je travaillais encore, c'était très très compliqué. Il fallait que je prenne parce que contrairement à ce qu'on croit, je ne suis pas fonctionnaire. Donc, tous les gens qui sont pas fonctionnaires n'ont pas le droit à des jours où il faut que ça soit motivé et on prend ça sur nos heures de vacances.
Sur vos loisirs, sur vos temps libres, oui, c'est sûr.
Alors, temps de vacances, c'est-à-dire
sur les temps de vacances.
J'étais obligé de prendre des congés pour aller à certaines règles.
On a envie de vous poser la dernière question qu'on pose à tous les maires. Êtes-vous un maire heureux, Philippe Claude, à Audrecy?
Oh ben, dans l'ensemble, oui, des tracasseries, mais bon...
Tous les maires nous disent qu'ils en ont, hein. Ils sont tous tracassés par... Il y a des individus qui les... Il y en a même qui sont presque harcelés par des gens qui insistent. Mais globalement, ils sont quand même contents.
Bah, dans l'ensemble, oui, hein, de toute manière. Sinon, on ne...
Vous ne continueriez pas.
Voilà.
Eh bien, on vous remercie, Philippe Claude, d'avoir été avec nous. Rappelons que vous êtes le maire d'Audrecy, dans les Ardennes, à quelques kilomètres de Charleville-Mézières. Et on aura bien sûr l'occasion de vous retrouver. À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Merci à tous les deux. 18h30, ou presque, l'heure du journal régional. Les titres de ce jeudi 7 décembre 2023, la maîtrise de la cathédrale de Reims sera à Rethel dimanche pour donner un concert exceptionnel. Sandrine Lebec détaillera l'événement. Passé par le Stade de Reims et les Girondins de Bordeaux, David Guillon rejoint le banc de l'équipe première à 3 rencontres.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Et puisque l'on va parler de l'église Saint-Nicolas de Rethel, c'était hier, mercredi 6 décembre, là Saint-Nicolas, on a beaucoup parlé de mettre les chaussures dehors, de savoir si on allait avoir des gourmandises, des friandises. Kylian, verdict, est-ce que vous avez été gâté en rentrant chez vous hier soir?
Un petit peu de chocolat qu'on a dû partager en famille.
Que vous avez dû partager, mais c'est bien parce que sur RCF, la joie se partage, les chocolats aussi se partagent.
Absolument.
Absolument. Manon, finalement, vous n'aviez pas laissé vos souliers devant la porte, donc on imagine que vous n'avez pas eu grand-chose.
Eh bien si, les filles de l'internat ont été très gentilles et m'ont donné des carambars et des Kit Kat.
Ah ben voilà, vous êtes gâtée. Les gens vous apprécient, Manon, ça c'est une bonne nouvelle.
Mais oui, ils m'adorent, je suis la meilleure surveillante des tâches possible.
Ah bien voilà, tout en humilité, c'est tout ce qu'on aime. Et donc un rendez-vous pour dimanche, désormais le 10 décembre, en l'église Saint-Nicolas de Retel à 16h. Un concert sera chanté par la maîtrise de la cathédrale de Reims. Sandrine Lebec, directrice musicale de la maîtrise, est au micro de Jean-Pierre Benoît. Elle souligne l'exceptionnelle réussite de cette promotion 2023 pour la réalisation de ce concert exceptionnel.
C'est vrai que pourtant j'ai l'impression d'avoir fait le même travail, mais il y a des années où tout fonctionne mieux parce qu'on a des super promotions, il y a des années où c'est un petit peu moins bien, mais on essaye de maintenir une qualité et voilà, ça fait plaisir. C'est un concert de Noël organisé par l'Hospitalité de Lourdes, donc là c'est la maîtrise qui va intervenir, le concert est à 16h à Saint-Nicolas dans cette très 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 belle et surprenante église.
Au programme il y a bien sûr
chants de Noël, des chants sur les anges, un petit peu de tout. Il y a essentiellement des chants de Noël, mais pas que.
En tout cas, c'est un rendez-vous. Tout le monde est invité, bien sûr.
Saint-Nicolas
de Retel.
De Retel. Ce concert-là est payant parce qu'il est pour les bénéfices de l'Hospitalité de Lourdes. Donc, c'est 15€, c'est un tarif unique. Et puis après, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.
Un événement organisé par l'Hospitalité de Reims-Ardennes, association qui permet à des personnes en situation de handicap ou personnes de santé fragile de participer au pèlerinage diocésain à Lourdes. C'est au mois d'août, le rendez-vous prochain, ça sera donc en août 2024 désormais. Dans le cadre de la semaine des lycées professionnels, le recteur de l'Académie de Reims, Vincent Stanek, s'est rendu ce jeudi à la cité scolaire La Fontaine du V à Cézanne. Le fil conducteur de cette semaine est de permettre aux établissements de faire connaître leur offre de formation, les diplômes et les métiers auxquels ils préparent. Ce soir à 20h15, c'est un rendez-vous que l'on vous annonce depuis le début de semaine et que l'on maintient, qui est maintenu. C'est au monastère des Clarisses de Cormontreuil. Les sœurs vous invitent à venir vivre avec la communauté la veillée de prière pour la solennité de l'Immaculée Conception. Dans la Marne, un cuisinier et un pâtissier ont été honorés par le Gotemio, qui a révélé son palmarès régional Grand Est 2024. Paolo Boscaro, chef du Royal Champagne à Champillon, a été distingué dans la catégorie cuisine de la mer, des lacs et des rivières. Et Grégory Mass, chef pâtissier de l'assiette champenoise à Tinqueux, est nommé pâtissier Grand Est 2024. L'Espérance sportive 3 Aubes Champagne a trouvé son nouveau coach, Christopher.
Et oui, Alexis, après avoir annoncé le départ de son entraîneur Patrick Kinorbo d'un commun accord, l'Estac a officialisé hier la nomination de David Guillon, auparavant entraîneur des Girondins de Bordeaux et du Stade de Reims. Il a livré ses premières impressions.
Je suis content, enthousiaste, frais et disposé de suite à amener, à apporter quelque chose à l'ensemble du club et aussi évidemment à mon vestiaire. Il y a beaucoup de fraîcheur parce que j'étais pas du tout fatigué à la sortie début de saison avec les Girondins de Bordeaux, parce que tout se passait bien avec le staff et puis avec les joueurs, donc il n'y avait pas de lassitude. J'ai pu tourner la page et puis me focaliser ensuite sur les stacks avec beaucoup d'enthousiasme. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources dans ce club sur lequel je vais pouvoir m'appuyer et je suis content de pouvoir apporter mon expérience, ma connaissance du championnat à moi de reprendre le flambeau de la meilleure des façons.
Objectif, relancer le club troyen, 14e de Ligue 2 avec un effectif jeune que David Guillon a l'habitude de travailler. Engagé dans l'un des clubs du City Football Group, David Guillon reste serein.
J'ai présenté mon projet de jeu sur lequel on s'est très rapidement entendu. C'est une chance d'avoir un groupe qui soutient les Stack parce que évidemment entre leur grande expérience, leur grande compétence du très haut niveau, pouvoir s'appuyer sur des ressources et des compétences telles que le City Group, c'est exceptionnel pour moi, pour le club et puis pour le staff. Et ça ne peut que nous tirer vers le haut.
David Guillon est lié avec les Stack jusqu'en juin 2025.
Premier match pour David Guillon sur le banc troyen, ça sera le 16 décembre à domicile face au leader du championnat de Ligue 2, le SCO d'Angers. Forte affaire donc pour la première. Et puis, vous le savez, tous les soirs en fin de journal, on retrouve notre stagiaire à la rédaction, Manon Bréval. C'est son avant-dernière météo ce soir. Bonsoir Manon.
Bonsoir Alexis.
Quel temps dans le ciel en Champagne-Ardenne pour ce vendredi?
Les tendances de demain sont à la pluie. Étonnant, Épernay, Chalon et Rethel y échapperont pour laisser place à des nuages tumultueux et de la brume. Le mercure de vos thermomètres descendra au minimum à 3 degrés et montera au maximum à 10 degrés. La pluie se stoppera pour l'après-midi, des gros nuages épais et du brouillard sont attendus. Une après-midi qui se réchauffe car les températures se situeront entre 7 et 10 degrés. Restez vigilants, dans la Marne et les Ardennes, nous sommes en vigilance jaune crue. Demain, nous célébrons l'Immaculée Conception.
Merci Manon, on vous retrouvera une ultime fois demain pour la météo. Mais dans quelques instants, vous allez nous dire comment vous avez vécu votre stage au sein de la rédaction de RCF France Ardennes. Ainsi se referme ce journal, le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Chalon, Charleville-Mézières.
Chose promise, chose due, dans cette deuxième partie d'émission, on commence avec Manon qui vit ses derniers jours au sein de la rédaction de RCF France-Ardennes, ses derniers jours de stage, évidemment, parce qu'il en reste encore beaucoup à vivre, en tout cas on lui souhaite. Manon, bonsoir, merci d'être de nouveau avec nous après cette météo.
Rebonsoir.
Et puis nous avons également Kylian, un de nos autres stagiaires. La première question, je la pose d'abord à Kylian. Kylian, vous n'avez pas été trop martyrisé de partager le bureau et cette collaboration entre stagiaires ici au sein de RCF avec Manon?
Non, ça va. C'est une bonne stagiaire et une bonne camarade pour travailler avec elle.
Ouais, c'est vrai que j'ai cru entendre que ça rigolait beaucoup dans les bureaux, presque que ça rigolait plus que ça ne travaille quand même.
Non. 50-50. Autant de travail que de travail.
Autant de travail que de travail.
Vous voyez, que du travail.
Que du travail. On pense travail, on est focus. 100% travail. Bon, Manon, comment cela s'est-il passé? Est-ce que c'est 100% travail?
Eh bien écoutez Alexis, ça s'est déroulé pour le mieux, j'ai pu apprendre beaucoup de choses, rencontrer beaucoup de personnes, passer des super moments en votre compagnie, vous, toute l'équipe, mais aussi avec nos auditeurs. J'ai aussi pu beaucoup manger durant le stage.
Et oui, effectivement, parce que pour travailler, il faut prendre des forces. Alors tout cela, c'est génial, mais concrètement, qu'est-ce que vous avez fait Manon pendant votre stage?
Alors j'ai pu réaliser différents visuels pour la radio Don, j'ai donc créé des illustrations chaque jour, un nouveau membre de l'équipe était illustré, donc ces visuels ont été diffusés sur Instagram, X, anciennement Twitter, et également sur Facebook. Tout au long de mon stage, j'ai pu préparer la météo, faire différentes chroniques autour du sport, du secours catholique et des événements. J'ai aussi pu participer et observer des émissions telles que Paroles de Jeunes, Sportiplex, Bulles étudiantes, Nouvelles du Monde, le 3QA et bien d'autres encore. Avec Kylian, on a aussi également tourné une vidéo sur une journée type d'un stagiaire.
Ça fait beaucoup de jolies activités, Manon. Qu'est-ce que tout cela vous a apporté comme compétences concrètement?
Grâce à ce stage, j'ai vraiment gagné en aisance orale, mais aussi en rédactionnel, en élocution. Et ce sont vraiment des qualités importantes qui me seront utiles tout au long de ma vie professionnelle.
Eh bien, on est heureux d'avoir pu vous accompagner, Manon, de la sorte. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour conclure?
Merci beaucoup à Jean-Pierre, Thierry et Fabrice pour leurs qualités humaines et leurs super compétences. À tous les bénévoles pour leur sourire et leur accueil. Merci aussi à Kylian, le stagiaire à la rédaction qui m'a épaulé tout au long de mon stage, tel un grand frère avec beaucoup de bienveillance. Et bien surtout...
À Kylian, vous voulez répondre à ça?
Oh, c'est trop mignon, Manon.
Oh là là, elle va vous manquer, votre petite sœur de stage.
Ah bah oui, comment on va faire sans elle? C'est la grande question qu'on va se poser.
Et aussi, surtout, merci à mon tuteur de stage, Alexis, pour sa gentillesse, sa pédagogie, son amour et sa passion pour son travail. Merci de m'avoir donné du temps pour m'apprendre beaucoup de choses. Et bien sûr, merci à vous, tous les auditeurs qui m'avez écouté.
Eh bien, merci surtout à vous, Manon, d'être venue, de nous avoir apporté tous les jours votre sourire, votre bonne humeur, votre professionnalisme, votre dynamisme et toute la bienveillance que vous avez apportée au sein de cette rédaction. Et puis, on vous retrouve demain, parce que votre stage, on a fait une sorte de conclusion aujourd'hui pour nos auditeurs. Mais demain, vous êtes encore avec nous pour la météo, vendredi?
Mais bien évidemment, et je reviendrai.
Et vous reviendrez, voilà, vous voulez pas nous quitter comme ça. Merci beaucoup Manon, en tout cas c'était un plaisir pour nous de travailler avec vous. Et puis Kylian, vous êtes encore là pendant 2 semaines, vous êtes un petit peu orphelin maintenant.
Ah, oh, c'est tout, on va faire avec. Tout va bien se passer. On est une vraie famille.
Eh ben tiens Kylian, justement, puisque vous dites qu'on est une famille, ça me fait penser à une musique de Big Flo et Oli, La Familia, c'est sur leur dernier album. Et comme Thierry me dit que l'on a un petit peu de temps ce soir, on s'écoute sur RCF.
La vida loca, la vida artiste. Regarde, je suis devenu une rosta.
Pour la famille.
Je fais le tour du monde, je veux rentrer chez moi.
Pour la famille.
Je remercie Dieu, j'ai le cœur qui bat chaque jour. Merci. C'est pas facile tous les jours, donc on cherche la monnaie pour toujours. Le ciel est gris dans nos ghettos, on veut le papel de David Guetta. Je suis avec Oli et Big Flo.
S'il y a un pépin direct, on shoot dans le tas. Le rappel de la vie d'avant pour que mon futur soit toujours meilleur. Je suis détruit de l'intérieur, c'est dans la douleur qu'on chante en cœur. Je veux ma peau et c'est encore. Je fais du fric même quand je dors. Je suis en Argentine avec Lionel Messi, Kun Agüero sur le bord d'une piscine.
C'est dans la douleur qu'on chante en cœur. Je fais le tour du monde, je veux juste rentrer chez moi. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la la, comment va
chaque jour, c'est pas facile tous les jours, donc on cherche la monnaie pour toujours.
Je vois partout, comme le drapeau de la Bretagne ou de l'Algérie. Elle m'appelle mon chéri, elle sait que je suis un génie. Je peux pas l'effacer, ça fait partie de moi. Regarde ma tête, on est grillé. Romain et Sweat vont te plier. Les bonbons sont remplis de Coca-Cola.
Pareil que Paris, c'est devenu la Boca.
La vida sous la tombola, Maradona, reprise de volée. J'aime trop le bling et j'aime trop briller. En fait, si ça se trouve, je suis congolais. Ça coule dans mes veines, c'est marqué sur ma peau. Ça se voit dans mes yeux, ça s'entend dans les mots. Souvent, j'ai de la peine, je reviendrai bientôt. Je fais ce que je peux, je sais ce que
si
je veux.
J'avais le papa
du frérot Leto,
j'allumerai tous ces fils de puta qui pendent dans mon dos.
Je le fais pour la familia.
Je le fais pour la famille.
Je voulais la vida loca.
La vie d'artiste.
Je le fais pour la familia.
Je le fais pour la famille.
Je voulais la vida loca.
La vie d'artiste.
Je le fais pour la familia.
Je le fais pour la famille.
Je voulais la vida loca.
La vie d'artiste.
Je le fais pour la familia.
Famille, famille, famille.
La familia, c'est tout ce qui compte.
La Familia, Big Flo et Oli, si vous nous rejoignez, sachez qu'on était en train de parler il y a quelques minutes avec Kylian à l'occasion de la fin du stage de Manon, qu'on a une vraie famille ici avec ce petit trio, d'où ce petit écart, mais on reprend notre sérieux après cette écoute de La Familia, donc sur l'antenne de RCF.
Le 18-19 sur RCF.
Et nous, dans la suite de cette émission, on prend la direction d'Épernay du 8 au 10 décembre. C'est demain, donc, l'événement Habit de Lumière revient à Épernay. Présentation de la 23e édition avec Jacques Fromm, conseiller municipal délégué au commerce et aux grands événements. C'est avec Christopher Fausten.
Bonjour Jacques Fromm.
Bonjour.
Vous êtes conseiller municipal délégué en charge des animations et des grands événements. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur SF pour nous présenter cette 23e édition des Habits de Lumière. En quelques mots, pour introduire un petit peu cet événement, on peut le dire exceptionnel pour la ville d'Épernay.
C'est un événement exceptionnel qui nous fêtons là la 23e édition. C'est un événement qui a évolué au cours des années, qui est devenu maintenant un compte incontournable sur Épernay, même sur le département et la région Grand Est. C'est devenu un événement majeur de la ville d'Épernay.
On pense souvent à l'événement de Lyon aussi, hein, les Habits de Lumière de Lyon. Est-ce qu'on peut comparer un petit peu à cet événement du côté de Lyon à Épernay?
On n'a quand même pas la même ampleur, mais c'est une manifestation quand même très très importante sur Épernay, avec une mise en lumière justement de l'avenue de Champagne, qui est un lieu très particulier avec tous ces sites dédiés au Champagne, toutes les maisons de vignerons et grandes maisons qui sont là présentes. C'est vraiment exceptionnel sur un peu plus d'un kilomètre d'avoir tous ces lieux, si vous voulez, entre la mairie, le musée, les différentes maisons de Champagne. C'est vraiment un site extraordinaire.
Alors, ça va se dérouler sous 3 jours, 8, 9 et 10 décembre prochains, cette 23e édition des Habits de Lumière à Épernay. On le disait, à l'avenue de Champagne, on va dire habiller, colorer les maisons de Champagne, mais tout ne tourne pas autour des Habits de Lumière. Il y a quand même pas mal d'animations qui accompagnent ces Habits de Lumière.
Il y a tout un tas d'animations qui accompagnent, puisque vous avez les deux soirées festives, le vendredi soir et le samedi soir, qui sont, elles, dans l'avenue de Champagne. Mais vous avez, par exemple, le samedi, les Habits de Saveur, les rendez-vous gourmands des petits pâtissiers, qui sont des animations qui meublent les journées, si vous voulez, avec des publics différents. Il y a les dégustations, par exemple, les Habits de Saveur. C'est une union d'un restaurateur étoilé avec une maison de Champagne et qui met à la dégustation des spécialités et une cuvée réalisée justement en marge de ces spécialités.
Alors on est déjà à la 23e édition, Jacques Fromme. Combien de visiteurs attendez-vous à ce genre d'événement ?
Alors l'édition de l'an dernier a regroupé 60 000 visiteurs pendant ces 3 jours et on espère bien sûr en accueillir plus encore cette année.
Est-ce qu'il y a des nouveautés pour cette nouvelle édition des Habits de Lumière à Épernay ?
Alors tout est nouveau puisqu'à chaque fois c'est un nouveau spectacle. On n'a pas de répétition d'année en année sur le spectacle. À chaque fois ce sont des animations nouvelles qui sont proposées soit par la ville, soit par les maisons de champagne. Donc il y a toujours une découverte très intéressante des animations qui vont être présentes. On a de nouveau un nouveau vidéo mapping sur la façade de la mairie, un autre sur la façade de la Villa Rose. Puis bien sûr le traditionnel feu d'artifice qui termine toujours les animations des vendredis et samedis.
Avec toujours la déambulation qu'on a aussi ?
Alors, plus de la même façon puisqu'on ne peut plus faire les grandes déambulations qu'on faisait avant en raison des différents événements. On a modifié complètement l'organisation de cette manifestation. Mais vous avez des petites déambulations qui permettent de parcourir tout au long de l'avenue ces différents sites.
Alors les Habits de Lumière organisés par la commune d'Épernay, mais pas seulement, c'est quand même une collaboration avec différents partenaires, les différentes maisons de champagne aussi.
Alors, principalement, bien sûr, c'est la ville d'Épernay pour tout ce qui est événement sur le domaine public, et bien sûr, le comité de l'avenue qui, lui, anime tout ce qui est maisons de champagne et maisons de vigneron.
Jacques Fromme, conseiller municipal délégué en charge des grandes animations, des grands événements avec nous aujourd'hui sur RCF. Merci d'être avec nous pour nous présenter cette 23e édition des Habits de Lumière qui se tiendront les 8, 9 et 10 décembre prochains à l'avenue de Champagne. On vient de présenter un petit peu les grandes lignes. Rentrons un petit peu dans le cœur de l'événement parce qu'on a parlé de ces animations qui vont nous faire vivre ces 3 jours du côté d'Épernay. Mais on a également cette parade automobile, un rendez-vous qu'on a l'habitude d'avoir depuis déjà près de 15 ans le dimanche.
Effectivement, c'est à peu près 15 ans qu'on a cette manifestation le dimanche. Alors cette année, ce sera le dimanche 10 décembre et on accueille plus de 400 véhicules anciens qui vont parcourir les différentes rues de la ville. Donc c'est une animation très forte et qui est très attendue du public sparnassien et des amateurs automobiles qui ont toujours plaisir à découvrir un nombre aussi important de véhicules anciens.
Comment on a pu mettre en lien à la fois les Habits de Lumière et une parade automobile ? On se dit que c'est quand même deux choses totalement différentes. Et pourtant, vous avez réussi à intégrer ce genre de rendez-vous dans les Habits de Lumière.
C'est un rendez-vous habituel maintenant. Et c'est vrai que le départ, c'était principalement les maisons de champagne qui avaient des véhicules anciens qui pouvaient circuler dans l'avenue. Donc c'était l'occasion justement de regrouper un nombre de véhicules importants. Et c'est ça qui a motivé un peu ces rendez-vous.
Les autres rendez-vous phares, on parlait il y a quelques instants le côté pâtisserie. Eh bien, il y aura un concours des petits pâtissiers également dans cette nouvelle édition.
Alors, concours des petits pâtissiers qui existe maintenant depuis plusieurs années. C'est la réalisation par un enfant guidé par un représentant des métiers de bouche de réaliser un gâteau de Noël qui sera sélectionné, qui va permettre de concourir et récompenser les enfants qui participent à ce concours. Très sympathique et très gourmand.
Et c'est en collaboration avec les boulangeries sparnassiennes ?
C'est en collaboration avec Vincent Dallet, qui est le président des métiers de bouche.
Autre rendez-vous, l'atelier Accord mai et vin. Alors, en quoi signifie ce rendez-vous, Jacques Fromme ?
Alors, c'est un rendez-vous avec Franck Wolfert qui permet d'y associer champagne avec différents mets, justement, et de découvrir toutes les cuvées qui peuvent se marier spécifiquement avec un mets particulier.
Alors en parallèle de ce rendez-vous tant attendu, courant décembre du côté d'Épernay, Jacques Fromme, ses Habits de Lumière, on retrouve bien sûr les animations habituelles, ou si j'ai envie de dire les animations de fin d'année, notamment Épernay qui fera son retour.
Alors Épernay, bien sûr, qui fera son retour, c'est une manifestation attendue aussi, qui dure tout le mois de décembre et jusque même la première semaine de janvier, qui est organisée par les vitrines d'Épernay, avec la collaboration de la ville. On y trouve en particulier une patinoire de plein air, patinoire en glace, qui est très attendue par les spectateurs. Et puis, bien sûr, pour le thème Épernay, une piste de luge, par exemple, et un mur d'escalade qui seront situés sur la place Bernard Stasi et qui attendent de nombreux amateurs, puisque bon, on peut exercer tout un tas de choses sur la neige.
Et puis, le ballon d'Épernay, alors ça, c'est forcément quelque chose qu'on ne peut pas louper à Épernay. L'un des rendez-vous à ne pas manquer sur la cité sparnassienne.
Le ballon captif, bien sûr, qui fonctionnera justement pendant les habits de lumière, où on pourra avoir justement une vue extraordinaire sur les habits de lumière.
Merci Jacques Fromm. Alors pour plus de renseignements sur cette nouvelle édition des Habits de Lumière, 8, 9, 10 décembre prochain, on peut retrouver l'ensemble de la programmation, j'imagine, sur Internet ?
Sur Internet et sur le site de la ville, sans aucun problème.
Merci Jacques Fromm, conseiller municipal délégué en charge des animations et des grands événements, de nous avoir présenté cette nouvelle édition. On rappelle Habits de Lumière à l'avenue de Champagne, 8, 9, 10 décembre prochain. Et on invite bien sûr nos auditeurs à s'y rendre et à passer un très bon moment du côté des Pernets. Merci Jacques Fromm.
Merci à vous.
Merci Jacques Fromm et Christopher depuis l'hôtel de ville d'Épernay. L'année dernière, quelques 60 000 personnes étaient présentes, un record. On souhaite évidemment voir ce chiffre de fréquentation battu ce week-end.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et on termine ce magazine régional pour les 10 dernières minutes qu'il nous reste à passer ensemble avec un nouveau rendez-vous à prendre pour demain. Deux invités pour le prix d'un en studio sont avec Jean-Pierre Benoît.
Philippe Vattier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Olivier Cuissard, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Alors Philippe Vattier, vous êtes adjoint au maire de Reims, chargé de la politique de la ville, de l'insertion, de la cohésion territoriale et aussi de la promotion de la laïcité. Ça tombe bien Philippe Vattier, puisque demain soir, il y a la soirée de la laïcité. Ce sera dans les locaux de l'ICP de 18h à 20h. Pourquoi une telle rencontre Philippe Vattier?
Alors, cette journée, elle est née d'un partage avec Olivier Cuissard de l'ICP il y a plusieurs semaines, lorsqu'on avait eu l'occasion de se rencontrer. La laïcité, c'est une préoccupation de la nouvelle équipe municipale, la nouvelle, si je peux dire, depuis 2020, puisque dès le premier trimestre 2021, on avait fait proposer au conseil municipal ainsi qu'au conseil communautaire d'adopter la charte de la laïcité, une charte qui est proposée à toutes les associations percevant des subventions tantôt de la ville de Reims ou alors par les collectivités qui sont dans le Grand Reims, de manière à adopter ce principe de la laïcité et le rappeler. Cette journée, elle est un peu une forme de continuum. Il y a eu cette charte qui a été adoptée et puis on s'est dit qu'il fallait qu'on aille plus loin, parce que dans ces temps troubles, il était important de rappeler ô combien le principe de la laïcité était nécessaire pour un bien vivre ensemble.
Il faut dire aussi que le 9 décembre, c'est-à-dire samedi, c'est la journée de la laïcité.
Exact.
On va bien sûr vous retrouver à l'Institut catholique de Paris, campus de Reims, 6 rue du lieutenant Erdouin. Et vous, quand la proposition ou quand l'échange a eu lieu, Olivier Cuissard, vous avez tout de suite répondu présent.
Oui, bien évidemment, déjà aux côtés de la mairie. Et puis ce sont des sujets qui touchent aussi directement nos étudiants et peut-être plus particulièrement aussi l'aumônerie des étudiants, puisqu'on a une aumônerie à l'ICP. Mais pas que, puisqu'on a aussi mobilisé les étudiants de Sciences Po, les étudiants de Néoma et les étudiants du CNAM, des arts et métiers, seront aussi présents lors de cette conférence, débat.
Le maire de Reims sera présent, Philippe Vattier.
Alors, cette soirée, effectivement, sera introduite par Arnaud Robinet, et elle sera également conclue par Catherine Vautrin, présidente de la communauté urbaine.
Il faut dire qu'il y aura un certain nombre d'intervenants, la présence des étudiants, bien sûr, qui vont proposer des capsules vidéo, par exemple, mais il y aura un intervenant qui va nous préciser un peu les enjeux de cette laïcité.
Oui, dans nos facultés, on a des chercheurs qui travaillent sur ces sujets-là et notamment le professeur Bourdin, Bernard Bourdin, professeur et dominicain, Institut catholique de Paris, qui travaille sur la façon dont les uns et les autres pouvons vivre notre religion dans l'espace public, d'où le thème de sa conférence avant la table ronde.
La figure sociale du citoyen croyant dans une société démocratique et laïque. Philippe Vattier, vous l'avez sous-entendu, on ne le fera pas aujourd'hui parce que nous n'avons pas le temps, mais nous le referons peut-être dans d'autres émissions. C'est vrai que nous sommes dans une période un peu troublée et que là on parle de l'Institut catholique, on parle de RCF, mais il est bien évident que les enjeux actuels de la laïcité vont bien au-delà de la religion catholique et en particulier, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il y a une montée par exemple de l'intégrisme radical qui ne concerne pas bien entendu l'ensemble des musulmans, mais cet intégrisme radical fait qu'il n'entre pas forcément dans cette conception conception de la laïcité, qui est quand même une conception franco-française, qui est issue quand même de 1905, et ils ont peut-être du mal à entrer, et même forcément du mal à l'accepter.
Complètement, complètement. On est dans un contexte qui nécessite, à mon avis, que l'on remette au goût du jour, et pas seulement au moment de l'anniversaire de la journée de la laïcité, qu'on le remette d'une façon un peu plus permanente. Cette laïcité, vous le dites, elle est née effectivement en 1905, mais on peut se dire que le principe de la sécularisation était né bien avant, à partir du XVIIIe siècle. Et la loi de 1905, même si on peut se dire qu'elle est accouchée un peu dans la douleur, elle est venue consacrer un mouvement qui était progressif et qui s'est installé. Cette loi de la laïcité, elle n'intégrait pas ou très peu effectivement un certain nombre de religions qui n'étaient pas ou peu présentes dans notre société.
Absolument.
Aujourd'hui, avec tous les phénomènes d'immigration, on a un certain nombre de personnes d'origine étrangère qui ne savent pas ce qu'est la laïcité. Et paradoxalement, cette laïcité étant tellement installée dans notre société, on a oublié de rappeler ô combien elle était indispensable pour qu'on apprenne à partager, à se respecter et à se tolérer.
Parce que globalement, au XXe siècle, avant qu'il n'y ait cette montée immigrationniste, on peut dire quand même que ça s'était relativement bien passé. Il y a eu de temps en temps quelques mouvements d'humeur, mais globalement, cette laïcité, elle était comprise et acceptée, Philippe Vattier.
Totalement. J'ai envie de dire que les premiers phénomènes migratoires, on était dans ce que j'appelle du multiculturalisme. Et tout le monde était dans le respect de la personne, des traditions, de la religion de l'autre. Dès que nous sommes passés dans le stade du multicommunautarisme, c'est là que les premiers écueils ont commencé. On se souvient Jacques Chirac qui avait sollicité Bernard Stasi pour réfléchir à cette laïcité, notamment quand des premières personnes travaillant dans des crèches portaient le voile. C'était juste dans les années 90, cette histoire-là. Et on voit bien comment, petit à petit, le débat s'est déplacé pour être souvent dans une laïcité qui est une laïcité de combat ou un argument utilisé par des extrêmes. Et donc, aujourd'hui, nous, collectivité, notre seul souci est de rappeler qu'on ne peut pas, que la laïcité, ce n'est pas du tout cela.
On aura l'occasion donc d'en savoir plus. Ce sera vendredi, c'est-à-dire demain, à partir de 18h jusqu'à 20h, à l'Institut catholique de Paris, campus de Reims. Il y aura aussi, on l'a dit, des étudiants qui vont intervenir, qui vont parler du programme, c'est un peu normal et c'est même indispensable, Olivier Cuissard.
Oui, les étudiants ont souhaité s'interroger sur les questions que l'on pose autour de cette table ce matin. Donc, ils nous ont organisé des petites capsules qui seront restituées tout le long de débats, conférences de la soirée.
Et puis, Philippe Vattier, il y a aussi une table ronde avec un certain nombre de participants, dont un parlementaire et puis l'archevêque de Reims, mais qui est aussi, rappelons-le, président de la conférence des évêques de France. Et qu'à ce titre, il représente l'Église catholique lorsqu'il rencontre les institutions et par exemple le président de la République.
Complètement. Et là encore, l'idée, quand on a sollicité l'archevêque de Reims, quand on a également sollicité le pasteur de Reims, Épernay, c'était, on voulait pas s'inscrire dans un dialogue interreligieux parce que c'était pas du tout l'objet. On était dans une idée de, aujourd'hui, en 2023, comment la laïcité, elle a sa place et quelle place elle doit avoir dans l'environnement institutionnel, dans l'environnement associatif, puisque on sait, et je le sais en tant qu'adjoint au maire, que souvent, dans des structures institutionnelles, cette laïcité, elle peut être repoussée. Et cette idée, après d'avoir un parlementaire, en la personne de Xavier Albertini, ça nous est apparu assez intéressant de créer un échange.
Merci Philippe Vattier, merci Olivier Cuissard d'avoir été avec nous. Rendez-vous, c'est demain, 18h-20h, à l'Institut catholique de Paris, campus de Reims.
Merci à toute l'équipe, Philippe Vattier, Olivier Cuissard, Jean-Pierre Benoît. Et puis on vous retrouve demain avec de nouvelles actualités à l'intérieur du magazine régional, vendredi 18h10. Merci Manon d'avoir été avec nous. Ce n'est qu'un au revoir pour aujourd'hui, on se retrouve encore demain. Vous serez là, fidèle au poste.
Toujours fidèle.
Toujours fidèle, ça c'est une bonne chose. Kylian, on vous retrouve vous aussi demain et encore après.
Et bien sûr.
Merci Kylian d'avoir été avec nous ce soir jusqu'à 19h. À toutes et à tous, merci pour votre fidélité. Une très bonne soirée. C'était Thierry Delis à la mise en onde.